La radio adventiste Béthanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit.
Chers et frères, amis de la prière, venus de partout, bonsoir. C'est un plaisir d'être ensemble à nouveau ce soir pour continuer avec cette semaine de prière qui précède la campagne. Vous savez que cette semaine gravite autour de ces paroles prononcées par le Christ sur la croix. Il a prononcé combien de paroles sur la croix, frères et sœurs? 7 paroles prononcées par le Christ sur la croix. Les soirées précédentes, nous avons déjà vu plusieurs messages. Nous avons parlé de la première parole qui disait quoi? La première parole disait quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je vous ai montré aussi que ce pardon-là demandé par Jésus à la croix pour ses bourreaux, c'était un pardon comment? Un pardon ponctuel. Un pardon comment, frères et sœurs? Ponctuel. C'est-à-dire, Jésus n'a pas demandé pardon pour les péchés passés. Il n'a pas non plus demandé pardon pour les péchés futurs, mais il a demandé pardon à son Père pour le péché que commettaient ces hommes immédiatement. C'est un pardon ponctuel, un ordre particulier. Et hier soir, nous avons parlé de quel sujet, si vous vous rappelez? Nous avons parlé sur Luc 23, verset 43, qui disait, Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, le problème se situait où ça? Le problème du texte. Dans la virgule. Je vous ai montré que le texte, à l'origine, manuscrit grec, était écrit en bloc. En bloc et en majuscule. Maintenant, celui qui a inventé la ponctuation, c'est-à-dire la virgule et les points virgules, il s'appelle Aldus Manicius, qui les a inventés en 1493. Donc, à l'origine, le texte était sans ponctuation. Ce soir, nous allons voir un autre message. Un autre sujet dans le cadre de ces 7 paroles prononcées par le Christ, c'est le testament de Jésus. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes ce soir d'être en ta sainte présence à nouveau, alors que nous allons ouvrir ta parole sainte. Nous te demandons, Seigneur, de nous imbiber par ta puissance. Bénis l'orateur du jour, bénis l'auditoire. Que tout se fasse pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Le testament de Jésus. Je vous invite à lire avec moi dans Jean chapitre 19. Nous allons nous attarder ce soir dans l'évangile de Jean. Si vous avez vos Bibles en main, c'est l'heure de l'ouvrir. Mais bien avant, vous m'avez dit que Jésus a prononcé combien de paroles sur la croix, frères et sœurs? Il a prononcé 7 paroles. Dieu a imprimé partout dans l'univers le caractère sacré du nombre 7. Dans le ciel étoilé, tout a été fait par 7. Toute la mysticité ancienne est pleine du nombre 7. C'est le plus mystérieux des nombres apocalyptiques. Le nombre 7 est le résultat de l'addition 3 plus 4. 3 représente la plénitude de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et 4 représente la perfection humaine. 4 coins du monde, 4 vents de la terre, 4 saisons, 4 points cardinaux. 7, c'est la plénitude des plénitudes. Les hommes parlent de 7 collines de Rome. Combien de collines ai-je dit, frères et sœurs? 7 collines de Rome. Les 7 collines de Rome. 7 collines, Viminal, Cutrinal, Capitolin, Esquilin, Palatin, Laventin, Caelius, les 7 collines de Rome. On parle aussi des 7 sages de la Grèce. 7 sages de la Grèce. On parle aussi des 7 merveilles du monde. 7 merveilles du monde. On parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 7 planètes du système solaire non habité. On parle de 7 étoiles de la Pléiade. On parle des 7 notes dans le domaine musical, do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 notes dans le domaine musical. On parle aussi des 7 péchés capitaux. Combien de péchés capitaux ai-je dit? 7 péchés capitaux. On parle aussi des 7 sacrements. 7 sacrements. On parle aussi, frères et sœurs, des 7 béatitudes de l'Apocalypse. L'Apocalypse parle, si vous scrutez l'Apocalypse, L'Apocalypse parle de sept étoiles, sept chandeliers d'or, sept églises, sept sceaux, sept anges, sept trompettes et sept coupes. Puis, en arrivant sur la croix, Jésus a prononcé combien de paroles? Sept paroles. Je vous avais dit la fois dernière que Jésus prononçait paroles. Alors, l'inscription qui était au-dessus de la tête de Jésus a été écrite en trois langues. Hein? Vous vous rappelez de cela? Trois langues. Lesquelles, frères et sœurs? Moi, c'est nous là. Qui l'a goûté? Le grec. Ensuite, le latin. Le grec, le latin et l'hébreu. Cela représente la seigneurie universelle de Jésus. Vous êtes d'accord avec cela, frères et sœurs? Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est mort pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. En effet, dans Jean 17, verset 3, que dit la Bible? La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, n'est-ce pas? Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce qui veut dire, frères et sœurs, ce soir, si vous voulez être sauvés, si vous voulez avoir le salut éternel, il va falloir que vous ayez la connaissance. Et quand je parle de la connaissance, je ne parle pas de la connaissance dans le sens du monde. La connaissance dans le sens antique. Par exemple, en Grèce, quand quelqu'un avait de la connaissance, on l'appelait sage. Je ne parle pas de cette connaissance-là. Mais je parle de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire avoir avec le Seigneur une relation expérimentale. Maintenant, Jésus a prononcé sur la croix cette parole. La première parole, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La deuxième parole, c'était quoi, frères et sœurs? « Je vous le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je vous ai montré que Jésus n'est pas allé au paradis le même jour. Jésus est mort le vendredi 14 Nisan. Jésus est mort, quelle date, frères et sœurs? Le vendredi 14 Nisan de l'année 31. Ce vendredi 14 Nisan, c'était la préparation du sabbat et la préparation de la Pâque. Voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus n'est pas ressuscité un dimanche Pâque. Comme les protestants qui aiment le dire, Jésus n'est pas ressuscité le dimanche Pâque parce que la Pâque est tombée le samedi 15 Nisan. Jésus n'est pas ressuscité le dimanche Pâque, mais il est ressuscité le dimanche qui a suivi la Pâque. Et ça, c'est clair. Et le mois de Nisan, c'est le septième mois dans le calendrier juif. Septième mois dans le calendrier juif. Et quand on parle de Nisan, ça correspond au mois de mars et au mois d'avril. Ça, c'est clair dans votre esprit. Maintenant, Jésus a prononcé sept paroles sur la croix. Les trois premières paroles de Jésus sont pour les autres. Les trois premières paroles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Première parole. La deuxième parole qui est pour les autres, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Et la troisième parole pour les autres, c'est il dit à Jean, Jean, voici ta mère. Hein? Et il dit à la femme, femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Donc les trois premières paroles prononcées par Jésus sont pour les autres. La quatrième parole, qui est la parole centrale prononcée par Jésus, cette parole nous permet d'évaluer un tout petit peu le prix de notre salut. La quatrième parole, j'aurai à la débattre avec vous demain soir. Quand Jésus s'est écrié, il a été au summum de la souffrance, le sommet de la souffrance. Jésus s'est écrié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jésus parlait l'araméen, c'était sa langue maternelle. Il est vrai qu'à cette époque, on enseignait encore l'hébreu dans certaines écoles en Israël. Mais la langue maternelle de Jésus, la langue parlée, la langue universelle de l'époque, la langue qui faisait poids à l'époque, c'était l'araméen. Et voilà pourquoi dans ce texte, on nous rapporte ce texte en araméen, cette phrase toute faite par Jésus quand il dit « Eli, Eli, lama ». Sabastani. Demain soir, venez, n'a comprendre ça, n'a comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, on avance. Quatrième parole, c'est la parole centrale. Et cette parole nous permet d'évaluer un tout petit peu le prix de notre salut. Et les trois dernières paroles prononcées par Jésus dans l'obscurité. Vous savez que les ténèbres ont enveloppé, ont envahi le pays. Jésus s'est écrié à cette heure, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à ce moment-là, il allait prononcer trois autres paroles. J'ai soif. La sixième parole, c'est tout est accompli. Le grec dit tetelestai. Vous aurez à comprendre ce sujet-là les jours qui viennent. Et la dernière parole prononcée par Jésus, j'aurai à débattre cette parole samedi matin ici à l'église. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas dit mon âme. Il n'a pas dit mon âme, mais il a dit mon esprit. Vous aurez à comprendre cela. En avancé, la dernière parole, pour les trois dernières paroles prononcées par Jésus, c'est j'ai soif, hein? Aidez-moi, j'ai soif, ensuite. En allez, j'ai soif, ensuite, tout est accompli, tétélestai, ou du moins tout est rendu parfait. Et la dernière parole, c'est Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Bien-aimés frères et sœurs, la troisième parole que nous allons considérer ce soir, c'est cette parole prononcée par Jésus quand il dit « Femme, voilà ton fils » et il dit « Jean, voici ta mère ». Pour mieux saisir le sens de cette parole, voyons un peu le contexte. Le contexte est que nous étions à la veille de la Pâque. Pour ceux-là d'entre vous qui étaient là hier soir, qu'est-ce que j'ai dit de la Pâque? Qu'est-ce que j'ai dit? La Pâque, c'était une fête qu'on célébrait en l'honneur de la délivrance de l'esclavage, n'est-ce pas? Dieu avait libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte, n'est-ce pas? Après combien d'années, frères et sœurs? Après 400... Je n'entends pas. Après combien d'années, frères et sœurs? Après 430 ans passés en esclavage, le Seigneur a dû descendre dans sa condescendance, dans son amour, dans sa mansuétude, dans sa longanimité. Il est descendu et il a dit à Moïse sur la montagne de Sinaï, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Et le Seigneur, il a libéré son peuple, il a libéré ses enfants qui étaient captifs en Égypte, et le Seigneur a manifesté sa puissance. Maintenant, pour mieux nous situer, pour mieux vous éclairer concernant cette phrase prononcée par Jésus, Jean, voici ta mère, femme, voilà ton fils. Maintenant, pour faire le contexte, nous étions à la veille de la fête de Pâques, et la Pâque regardait en deux directions. En arrière, un regard rétrospectif vers l'Égypte où le peuple gisait dans l'esclavage, et un regard en avant vers le futur, vers la quoi? Vers la première venue de Jésus. Mais je vous ai dit aussi que la Sainte Cène a remplacé la Pâque, n'est-ce pas? Il n'est plus question de Pâque aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit que Jésus est ressuscité le dimanche Pâques, qu'est-ce que vous allez dire? Non, parce que la Pâque est tombée le samedi, comment? 15 Nisan, Jésus est ressuscité le dimanche qui a suivi la Pâque. Maintenant, la Pâque regarde vers deux directions, en arrière vers l'Égypte et en avant vers la croix, vers la première venue de Jésus. Jésus, avant sa passion, avant sa mort, avant son ascension, qu'est-ce qu'il a fait? Il a célébré la Sainte Cène, et quand il a célébré la Sainte Cène, ce qu'il a fait, il a remplacé la Pâque par la Sainte Cène. Aujourd'hui, il n'est plus question de Pâque, parce que Paul dit, Jésus, l'agneau pascal de Dieu, a été immolé. Il a été immolé et la Sainte Cène a remplacé la Pâque. De même que la Pâque regardait vers deux directions, la Sainte Cène aussi regarde vers deux directions. Quand on prend la Sainte Cène, hein, on regarde vers deux directions. Un regard rétrospectif vers la croix, un regard en arrière, et l'autre regard, c'est un regard vers le futur. Un regard eschatologique où Jésus fera sa seconde venue. Amen, frères et sœurs. Il reviendra pour nous chercher afin de nous emmener dans le ciel. Maintenant, pour le contexte, frères et sœurs, arrivé sur la croix, la première intervention de Jésus fut une prière de pardon pour ses bourreaux. Ce que le Seigneur n'a pas exigé d'Abraham dans le sacrifice qu'il a réclamé de son serviteur, les hommes pécheurs, malheureusement, l'ont exigé de Dieu en sacrifiant son fils. La crucifixion de Jésus, c'est l'ultime liberté concédée par Dieu aux hommes. Et le Seigneur n'a pas réagi. J'ai lu un ouvrage, Le silence des anges. Les anges se turent dans le ciel, pas de musique. Aucun ange n'ose louer le Père, ni le Saint-Esprit, parce que le second personnage de la divinité est en danger. Il allait donner sa vie, c'est la dernière semaine, pas de musique. De chant, les anges n'osent pas chanter, c'est la tristesse dans le ciel est dans la consternation parce que le Fils de Dieu, la majesté du ciel, allait donner sa vie sur la croix. Frères et sœurs, je vous l'avais dit déjà, Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la croix, Jésus a réalisé, il a réalisé l'énoncé contractuel. Vous vous rappelez de cela? Il a réalisé quoi, frères et sœurs? L'énoncé contractuel. Dans contractuel, on voit quoi? Contrat. Le contrat disait quoi? Au cas où l'homme pêche, le Fils de Dieu devait venir mourir pour racheter l'humanité. Et voilà pourquoi les théologiens parlent de l'énoncé contractuel, disjonctionnel et conjonctionnel. Dans disjonctionnel, on voit quoi? Parlez avec frères et sœurs. Dans disjonctionnel, on voit quoi? Disjonctionnel. La disjonction, on voit la séparation. On voit la séparation. Et conjonctionnel, ça veut dire quoi? On voit la conjonction. Jésus a pris la nature humaine, il a pris la forme humaine. Voilà pourquoi on parle de vere homo, vere deus. Jésus était l'homme-dieu. Il n'était pas un homme et un dieu. On appelle ça en théologie l'union hypostatique. L'union hypostatique, ou du moins l'union théanthropique. L'homme-dieu. Et ça, c'est un mystère. C'est une sorte de symbiose de nature qui se sont fondus en une seule. Jésus est l'homme-dieu. Arrivé sur la croix, la première intervention de Jésus fut une prière pour ses bourreaux. La deuxième intervention de Jésus, Jésus a sauvé un brigand repentant à la croix. Le brigand repentant à la croix. À Golgotha, il y avait trois croix. Lesquelles, frères et sœurs? Trois croix. La croix de la... Attendez, la croix de la... La croix de l'impénitence, la croix de l'impénitence. La deuxième croix, c'est quoi? La croix de la repentance. Et la troisième croix, c'est quoi? La croix de la délivrance. Ce larron a manifesté sa foi. Il a fait montre de sa foi. Dans un élan de foi, il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus a sauvé ce brigand. Les deux brigands, leur nom c'était Gesta et Dimas. Gesta et Dimas. Jésus a sauvé l'un des brigands à la croix. Et à la troisième parole, Jésus va redonner un fils à une mère qui était en difficulté. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Lisez avec moi, frères et sœurs. Lisez avec moi ce soir dans Jean chapitre 19, les versets 25 à 27. Dans Jean chapitre 19, nous allons voir la troisième parole prononcée par Jésus. Mais pour mieux vous éclairer, nous allons commencer à partir du verset 1er pour mieux saisir le sens du texte. Lisez avec moi dans Jean chapitre 19. Qu'est-ce qu'il y a dit? Lisons ensemble. Nous allons mettre tout le monde à plier. On nous lit ensemble. Ça le dit. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Là, on dit pourpre. Ça veut dire qui ça? Qui couleur? Rouge. En avancé. Puis, s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Mes amis, qui ça a fait Jésus, frères et sœurs? Il lui donnait quoi? Des soufflets. Ah, gros français. Ça n'a pas dit le cœur, qu'on a dit? Calotte. Cœur la plus pesée. Calotte. Combien de nous l'avons accepté ça? On fait réfléchir, frères et sœurs. Il est vrai que le concours est bralé, mais on fait réfléchir. Pour, frères et sœurs, mais c'est terrible. Je me demande, est-ce vrai? C'est pas que je doute, mais c'est terrible. On a souffleté le Fils de Dieu et il n'a pas réagi. En avancé, pour nous, qui ça dit encore? En avancé, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Pilate sortit de nouveau et il dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui comment? Aucun crime. Verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Ecce homo. Voici l'homme. En avancé. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent quoi? Crucifie! Crucifie! Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent quoi? Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voilà la raison pour laquelle on a sacrifié Jésus. On va continuer avec la lecture. On a crucifié Jésus parce qu'il se disait comment être le fils de Dieu. Moi et le Père, nous sommes... Attendez, frères et sœurs. Moi et le Père, nous sommes... Est-ce qu'il a menti? N'est-ce pas la réalité? N'est-ce pas la réalité? J'aurais à vous montrer cela le premier jour de la campagne, parce que je vais prêcher sur la création. Maintenant, dans Genèse 1, verset 1, il est dit au commencement. Non, dans Genèse, je n'ai pas dit Jean. Genèse, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Donc ça, c'est comme un titre général. C'est comme un titre. Ça apparaît comme un titre. Au commencement, Dieu créa. Bereshit, l'hébreu dit Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Bereshit, Bara, Elohim. Elohim, c'est le sujet qui traduit le Dieu trinitaire. Parce que le mot, le sujet est au pluriel. Parce que la terminaison im marque en hébreu la pluralité. Elohim, Bereshit, au commencement, Bara. Si le sujet est au pluriel, en grammaire, comment doit être le verbe? Vous ne répondez pas. Comment doit être le verbe? Au pluriel. Parce que le sujet est au pluriel et le verbe doit s'accorder avec son sujet. N'est-ce pas? Mais ce qui est bizarre dans ce texte, le texte dit en hébreu, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Elohim, c'est le sujet. Bara, c'est un verbe qu'on utilise exclusivement pour Dieu. Ce n'est pas un verbe qu'on va utiliser pour les humains. Parce que le verbe bara marque dans sa totalité une intervention directe de Dieu. Et ce que j'aime dans le texte, c'est que le verbe n'est pas à la troisième personne du pluriel, le verbe est à la troisième personne du singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine unicité. La Bible n'a jamais présenté Dieu comme un être pluriel, mais la Bible parle comme, la Bible dit, présente Dieu comme le seul éternel. Dans Deutéronome 6, verset 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoute Israël, l'éternel votre Dieu... Non, pas là. L'éternel votre Dieu est le seul éternel. Oui, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes en Dieu. Et ces trois personnes, ce sont qui? Ce sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a crucifié Jésus parce qu'il se disait être le Fils de Dieu. En avancé, verset 7. Les Juifs lui répondirent, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Verset 8, lisez avec moi. Verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire. Il rentra dans le prétoire. Et il dit à Jésus, d'où es-tu? Regardez bien, oui, d'où es-tu? Qui compte aussi? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Verset 11, frères et sœurs. J'aime cette réponse de Jésus. Verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus répondit, écoutez bien, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet le plus grand péché. Pilate, c'est comme, j'ai lu ça quelque part, c'est comme un incrédule crédule. Moi, ça n'a pas compris le langage ça. Pilate, c'était un incrédule crédule. Il savait déjà entendre parler de Jésus, des miracles accomplis par Jésus. Et Jésus lui a donné déjà des démonstrations stratosphériques de sa divinité. Jésus l'a dit clairement, je suis le roi des Juifs. Mais comme l'homme, c'est humain ce que je vais dire. Et Pilate n'avait pas de religion. Parce que pour lui-même, sa religion, c'est sa réussite dans l'échelle sociale. Sa religion, c'est sa réussite. Et il aimait tellement sa position que les Juifs vont faire avec Pilate ce que j'appellerais un jeu psychologique. Pilate, se sentant flatté dans son orgueil parce qu'il était magistrat, il dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher? Et Jésus ne lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Je vous avais montré hier soir que Madame White avait dit que si toute prière que juif y était qu'on fait, bon Dieu pas de contenté, mais qu'on prière au fait, bon Dieu t'étendait. Et prière ça, c'était quoi? C'est quand il dit que son sang, pas la même, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. J'ai lu ça dans Jésus-Christ, écrit par Madame White. J'ai été comme tombé des nues. Madame White dit, ce terrible cri monta jusqu'au trône de Dieu. Et en l'an 70, ils ont payé les conséquences. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en l'an 70? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Pas la veine. Ça qui s'est passé, frères et sœurs. La destruction du temple et beaucoup de juifs moururent à cette époque. Maintenant, on fait le contexte. Je vais y arriver. On fait le contexte. Maintenant, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Verset 12, lisez avec moi. Dès ce moment, lisons ensemble. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les juifs criaient, quoi? Si tu le relâches. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de qui? Tu n'es pas ami de César. César était roi. César. Jules César. J'aurais à vous raconter l'histoire qui s'est passée entre César et Pompée. Cette histoire qui s'est passée. C'est une très belle histoire. Mais bien avant, les Juifs ont fait avec Pilate un jeu psychologique. Parce que Pilate n'avait pas de religion. Sa religion était sa réussite dans l'échelle sociale. Ok? Il ne voulait pas perdre sa position. Frère et soeur, laissez-moi vous dire ce soir une vérité vraie. L'autre trop attaché à bien matériel, ça a fait ou perdu le ciel. Nous ne pas comment ça me dire là. Il y a trop madame l'eau, trop frais l'eau dans l'église qui toi remet les biens matériels. Bien aimé, il y a deux bagailles parfois, faut garder comme de la boue pour capable sauver votre vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord à ça, frères et sœurs? Rien n'est plus important que le ciel. Et Jésus avait dit aux siens que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Rien n'est plus important. Jésus voulait sauver Pilate. Jésus voulait sauver Pilate. Jésus aussi voulait sauver Néron, l'empereur Néron, par le biais de l'apôtre Paul. Mais quand Néron sentit qu'il allait être converti, il a demandé qu'on ramène Paul dans la prison. Et au fur et à mesure que l'on ferme la porte, le Saint-Esprit qui avait déjà pénétré le cœur de Néron s'est retiré. Et Néron, quelques heures plus tard, il s'est suicidé. Dieu, Jésus, voulait sauver Pilate. Et le Seigneur lui a dit, je suis le roi des Juifs, tu l'as dit. Et le Seigneur voulait tellement sauver Pilate, il a fait des sacrifices de titans. Au point que la femme de Pilate a eu un songe. Et elle a été obligée de dire à son mari, à Pilate, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Car hier soir, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et malheureusement, Pilate, il a tellement aimé sa position sociale qu'il s'est laissé mater par les Juifs. Il allait faire une nouvelle concession qui a trahi sa faiblesse et qui l'a livré à la volonté d'adversaire qui était plus décidé que lui. Malheureusement, frères et sœurs, l'histoire de Pilate s'est mal achevée. Il s'est suicidé lui aussi après la résurrection de Jésus. Pilate, ayant entendu ces paroles, voilà, il dit, les refonds psychologiques. Il y a des gens qui font, oui, vous voyez, il y a des gens qui ont appris un maudit, et puis ils font non avec. Regardez pour eux, il dit Pilate, les refonds Pilate veulent laguer Jésus, vrai, il dit Pilate, si tu le relâches, nous pas là, frères et sœurs, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Ami de César, en latin, amicus caesaris. Amicus caesaris, c'était un titre honorifique, et dès que quelqu'un perd ce titre, Quelques années plus tôt, un homme s'était vu retirer ce titre et il a été persécuté, on l'a même tué. Et Pilate, connaissant l'histoire, quand les Juifs lui dirent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, amicus caesaris, quand on perd ce titre honorifique, on sera persécuté et on perdra sa position sociale. Et Pilate s'est laissé prise au piège, Pilate a mal joué le jeu. Et il s'est laissé gagner par les Juifs une concession qui a trahi sa faiblesse. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, verset 13. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé. Lisez avec moi, verset 13. Au lieu appelé, comment, frères et sœurs? Le pavé. Et en hébreu, on dit Gabata. En hébreu, Gabata. C'était, verset 14. Lisez avec moi, frères et sœurs. C'était quoi? La préparation de la Pâque. C'était la préparation de la Pâque. Je ne mens pas, frères et sœurs. La Pâque est tombée le samedi 15 Nisan. Mais aujourd'hui, alors, le vendredi 14 Nisan, c'était le jour de la préparation. Le mot grec pour préparation signifie, pour jour de la préparation, signifie aussi vendredi. À noter cela. Le mot grec qui est traduit par jour de la préparation signifie aussi vendredi. Le vendredi, c'était la préparation de la Pâque. On a continué. Mais lisez avec moi, verset 14.
C'était la préparation de la Pâque. Et environ la sixième heure. La sixième heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, oh, oh, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs. Qui est-ce qu'on parle dans le texte? Les principaux sacrificateurs. Voyons ce qu'ils disent à Pilate. Voyons, voyons ce qu'ils disent à Pilate. Qui ça dit à Pilate, frères et sœurs? Nous n'avons de roi que César. Son seul roi n'est. Ils ont rejeté Dieu dans leur aveuglement spirituel. Ils haïssaient tellement Jésus parce que Jésus était pour eux comme une tare à éliminer. Ils étaient envieux de Jésus parce que Jésus gagnait la faveur du peuple. Et eux, avec la venue de Jésus, ils perdaient leur influence sur le peuple. Maintenant, par jalousie, ils sont allés à Pilate et ils ont demandé à Pilate de crucifier le Fils de Dieu. Dieu n'est pas responsable de la croix, frères et sœurs. Dieu n'est pas responsable de la croix. Et Dieu, s'il n'était pas un Dieu d'amour, il aurait pu nous laisser dans notre misère pour l'éternité. Parce que comme le texte vous dit, car le salaire du péché c'est la mort, Romains 6 verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, le mot mort ici en grec, c'est pas le nécros, comme dans nécrologie, mais le mot grec utilisé dans le texte, c'est le mot thanatos, en grec, qui veut dire, c'est comme t'as dit, si m'a dit texte à bien, car le salaire du péché c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Est-ce que vous avez l'argent qui a bon Dieu à soya pour ça, lui, que le babou, frères et sœurs? Qui s'en a bon Dieu à soya, frères et sœurs? Rien. Ils disent à Pilate, nous n'avons de roi que César. Verset 16, en avancé. Qui ça dit encore? Verset 16, en avancé. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, hein? Et l'amenèrent. Verset 17, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu comment, frères et sœurs? Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pour quelle raison on a placé Jésus au milieu, frères et sœurs? Pour quelle raison? Jésus était crucifié avec combien de brigands? Deux brigands. Cela fait combien au total? Trois brigands. Hein? La croix de l'impénitence et la croix de la repentance. La croix de la délivrance est au milieu. On a placé Jésus au milieu. C'est pour montrer à tout le monde qui était venu à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Voilà le plus grand des brigands, le plus grand des criminels, le plus grand des malfaiteurs. Jésus, le Fils de Dieu. On l'a battu de verge. Jésus a reçu des soufflets. On a même osé cracher sur lui, frères et sœurs. Il a reçu 40 coups moins 1 parce que la loi disait qu'on ne devait pas donner à un prisonnier plus de 40 coups de fouet. Jésus a reçu 40 coups moins 1. Ça fait combien? 39. 40 coups moins 1. C'était interdit par la loi. Jésus a été maltraité. Il a été considéré comme le plus grand des criminels. Et au verset 18, il a dit, c'est là qu'il fut crucifié avec deux autres brigands, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Pilate fit une inscription. Lisez avec. Pilate fit une inscription. Qui ça le dit? Qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus Nazarenus. Verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Hein? Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était. Ah non, là, elle était en quelle langue? En hébreu, en grec et en... Ouais, dis-nous ça. En hébreu, en grec et en latin. Preuve de la seigneurie universelle de Jésus. Les principaux, verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. N'écris pas, roi des Juifs. Parce que ce brigand ne saurait être le roi des Juifs. Mais écrit de préférence qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate de leur répondre. Et Pilate de répondre, Ho, Gegrapha. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Oh, Gégrafa, Gégrafa.
Ils dirent à Pilate, n'écris pas, roi des Juifs, mais écris que je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi quoi, frères et sœurs? Sa tunique, ça vous fait avec, qui était sans couture, de seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que l'écriture s'accomplit, cette parole de l'écriture s'accomplit. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Verset 25, voilà ce qui m'intéresse. Verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Près de la croix de Jésus. Ne pas courir. Se tenait qui? Se tenait qui, frères et sœurs? Sa mère. Ensuite, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. En avancé. Et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, verset 27, il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, une fois arrivé en croix, sur la croix, Jésus fit son testament. Le testament désigne les dernières volontés de quelqu'un, d'une personne avant sa mort. À la lumière du droit, il peut y avoir trois types de testaments. Le testament mystique ou secret, à la lumière du droit. Je ne suis pas avocat, mais j'ai quelques petites notions. Trois types de testaments. Le testament mystique ou secret. Le testament public. Et le troisième, c'est le testament holographe. Le testament comment? Holographe. Les deux premiers testaments exigent l'intervention d'un notaire. Seul le testament holographe peut être fait par le testateur sans l'intervention de qui que ce soit. Avant de mourir sur la croix, Jésus savait qu'il n'allait pas descendre de la croix. Parce que si Jésus descend de la croix, vous et moi, nous sommes perdus pour l'éternité. Et voilà pourquoi j'aime cette citation faite par un homme. Il s'appelle Biderhoff. Biderhoff dit, en restant sur la croix, Jésus fit de cet instrument de torture le trône du salut pour l'humanité. Amen, frères et sœurs. En restant sur la croix, Jésus fit de cet instrument de torture le trône du salut pour l'humanité. Jésus est cloué sur la croix. Et en tant que fils aîné de sa mère, en tant que fils aîné de Marie, sachant qu'il n'allait pas descendre de la croix parce que Joseph était mort depuis longtemps, Marie était veuve. Et quand vous êtes veuve à cette époque, vous allez, que vous n'avez pas de mari, vous allez souffrir. Vous allez passer des moments difficiles. Et Jésus savait qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler. La femme n'a aucun droit civil, aucun droit civique, aucun droit religieux. Jésus savait qu'il allait mourir et que sa maman allait souffrir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a légué ses dernières volontés. Il a laissé, il a donné ses dernières volontés. Et il a dit à la croix, au verset 25, il a dit, Jésus, au verset 26, Jésus dit, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère quoi? Femme, voilà ton fils. Puis, il dit au disciple, verset 27, qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs? Voilà ta mère. Et que dit le texte? Le texte dit, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Avant de mourir sur la croix, Jésus légua ses dernières volontés à son disciple bien-aimé. Et quand on dit disciple bien-aimé, c'était qui? Jean, le disciple bien-aimé, à l'endroit de sa mère. Bien-aimé, avant que le Christ pousse un dernier cri, son principal souci de fils a été de se faire remplacer dans le cœur de sa mère éplorée. Jésus s'est fait remplacer. Jésus savait qu'il allait monter au ciel, il allait retourner dans sa gloire, parce que c'était la kénose, c'était le Jésus dans l'abaissement. Il s'est abaissé, il a voilé sa gloire. Maintenant Jésus allait laisser la terre, il allait laisser les siens, et il allait laisser aussi sa mère biologique, parce que Jésus allait retourner au ciel auprès de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ses dernières volontés. Il s'est fait remplacer dans le cœur de sa maman éplorée. Jésus s'oublie
et pense à la sécurité matérielle de sa mère, parce que sa mère ne peut pas travailler, sa mère, ses autres frères ne croyaient pas en lui. Semble-t-il qu'il n'était même pas présent lors du sacrifice de Jésus. Seule Marie était là, mais les autres frères, les fils de Joseph n'étaient pas présents, semble-t-il. Jésus savait que sa mère allait souffrir. Et en tant que bon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Jean, « Jean, je ne serai pas là, je ne serai plus là, mais je te demanderai un petit service. Je voudrais que tu prennes soin de ma maman pour moi pendant mon absence. » N'était-ce pas bien, frères et sœurs bien-aimés? Répondez-moi, n'était-ce pas bien, frères et sœurs? Jésus se faisait du souci pour l'avenir matériel de sa maman. Jésus s'oublie et pense à la sécurité matérielle de sa mère, Marie, qu'il confie au bon soin du disciple bien-aimé, le plus jeune des apôtres. Frères et sœurs, la situation des veuves était difficile, mais Jésus, avant de mourir, avant de casser sa pipe, il a demandé à Jean de prendre soin de sa maman. Jésus s'est occupé de sa mère dont l'âme est transpercée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, ce même Jésus qui a demandé pardon pour ses bourreaux, ce même Jésus qui a sauvé le larron repentant, ce même Jésus, frères et sœurs, qui a demandé à Jean de prendre soin de sa maman alors qu'il allait mourir dans quelques instants, ce même Jésus est encore vivant aujourd'hui et il peut me sauver, te sauver pour le temps et l'éternité. Amen. Il peut nous sauver. On parle des trois grandes étapes de l'opération de sauvetage de Jésus-Christ. Les trois grandes étapes de l'opération de sauvetage de Jésus-Christ. Première étape, son incarnation qui le fait témoin de Dieu parmi nous. Première étape, son incarnation qui le fait témoin de Dieu parmi nous. La deuxième étape, sa mort qui nous sauve et sa résurrection qui est le gage de notre propre résurrection. Et la troisième étape, sa royauté qui garantit notre citoyenneté dans son royaume. Bien-aimés, frères et sœurs, très bientôt, Jésus va revenir. Est-ce que vous croyez en ces paroles? Jésus revient. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des moqueurs qui disent « Ah, depuis longtemps, on a parlé de Jésus, le Benjamin Gavini. » Jésus revient. Et quand Jésus va revenir, nous allons passer 1000 ans de vacances dans le ciel. 1000 ans. George Stepney, dans son ouvrage « Jésus, l'envoyé de Dieu, pourquoi est-il venu ?» il a dit que les 1000 ans représentent les premiers pas du genre humain vers l'éternité. Celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre, dans la Bible, c'était qui? Methuselah, qui a vécu combien d'années? 969 ans. Pas jamais beaucoup de monde qui vivent 1000 ans. Mais nous allons passer 1000 ans dans le ciel. Et Stephanie dit, les 1000 ans représentent les premiers pas du genre humain vers l'éternité. Parce que le temps c'est quoi? Le temps c'est une parcelle de l'éternité de Dieu. Quand Jésus revient, le temps va s'arrêter et fera place à l'éternité. Bien-aimés, le temps va s'arrêter à la venue de Jésus et nous serons entrés dans l'éternité. Nous allons passer 1000 ans dans le ciel et revenir sur la nouvelle terre. Et Mark Finley, dans son ouvrage « La superpuissance à venir », déclare clairement que Jésus, l'éternel, la divinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils feront de la terre, cette terre sur laquelle vous vivez, cette terre sur laquelle vous vivez maintenant. Dieu fera de cette terre la capitale de l'univers. Vous comprenez cela, frères et sœurs? Dieu fera quoi de la terre? La capitale de l'univers. Il viendra avec nous, il habitera avec nous sur la terre. Nous serons son peuple et l'éternel sera notre Dieu. Et ce que j'aime, c'est que l'Apocalypse dit, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus de mer, parce que la terre prend le fond seul. Tout ça qui est un symbole de menace pour les hommes, mon Dieu, anéanti. Et si vous avez éclairé la terre pour le temps et l'éternité, ce sera la gloire de l'éternel. Nous le verrons tel qu'il est. Paul dit, aujourd'hui je vois comme dans un miroir, d'une manière obscure. Mais quand viendra le temps, je le verrai tel qu'il est. Et je connaîtrai comme j'ai été connu. Bien-aimés, levez le mon cœur pour vous ce soir, c'est que vous tous qui êtes là, vous soyez sauvés pour l'éternité. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous donne de rester fidèle, que le Seigneur vous donne de mettre en pratique sa parole et que le Seigneur grave vos noms avec un burin de fer dans le livre de vie et qu'à la venue de Jésus, vous soyez sauvés pour le temps et l'éternité. Que Dieu vous bénisse.